franceinter.fr.
Cité universitaire. Attention à la marche en descendant du train. Attention, ce train est en direction de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Il est direct jusqu'à Bourg-la-Reine. Merci. Pour l'aéroport d'Orly, descendre à Antony. Change
Bonjour à tous. À 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle, Interception vous propose le premier numéro d'une série en 4 épisodes, Train de campagne. Loin des discours tribuniciens, il s'agit pour nous d'aller à la rencontre de ces Français qui voteront, ou pas, le 23 avril, de leur quotidien et de leurs préoccupations. Toutes les 4 semaines, nous vous emmènerons dans une région à bord d'un moyen de transport différent chaque fois, pour une traversée illustrant 4 des thèmes de la campagne. La fracture sociale, toujours pas réduite depuis l'invention de son nom pour une autre campagne au siècle dernier. La disparition des services publics, la crise identitaire et l'emploi. Aujourd'hui donc, ligne B du RER, ligne de fracture sociale, au fil des 80 km et des 41 stations de la deuxième ligne la plus fréquentée du RER francilien, près d'1 million d'usagers chaque jour, du pôle technologique d'excellence de Saclay au quartier déshérité d'Aulnay-sous-Bois, une traversée édifiante de la région capitale avec Vanessa Descouraux.
Interception, le magazine de la rédaction.
Notre premier arrêt est en vallée de Chevreuse, à une petite 40 km au sud de Paris. C'est tout au sud de cette ligne de RER qu'on a empruntée. Ici, c'est un écrin de verdure, 30 000 hectares à peu près de forêt. La vie est agréable en vallée de Chevreuse, c'est le moins que l'on puisse dire. Les salaires sont élevés, supérieurs à la moyenne nationale. Le taux de chômage, lui, est l'un des plus faibles de la région Île-de-France. Une autre donnée comme ça, c'est qu'environ 60% des habitants sont propriétaires de leur logement. Et enfin, il faut savoir qu'ici, la population est assez jeune parce qu'il y a un campus, le campus Paris-Sud, qui est situé sur le territoire de la ville d'Orsay. Et ce campus est en pleine expansion, en pleine modification, ce qui fait que cette vallée de Chevreuse est en train de devenir la vallée de la science.
Je m'appelle Jean-Claude Roinette, donc je suis anciennement enseignant-chercheur à l'Université Paris-Sud. J'ai été le doyen de la faculté des sciences pendant presque 10 années. Là, nous sommes sur le plateau de Saclay, mais qui est très vaste. Et la grande ambition, c'est d'en faire quelque chose qui soit équivalent au MIT. Alors quand on dit ça, ça paraît magique. L'idée, donc, c'est de faire en sorte que on regroupe sur un même territoire des universités, des grandes écoles, des laboratoires, des entreprises de haute technologie qui sont censés pouvoir interagir ensemble et donc créer de la valeur. Donc c'est ça l'objectif. C'est vraisemblablement quelque chose qui, à long terme, a des chances de se réaliser, mais qui est très difficile parce que on est obligé d'agréger des cultures différentes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. On peut dire que c'est un ensemble qui est en voie de création. Une des idées, c'est que ça soit visible de Shanghai, si vous voulez ce que je veux dire.
Au classement des universités, okay, voilà. Où à chaque fois on se plaint de ne jamais figurer en haute place.
Voilà. Alors, on sait que c'est difficile. On sait qu'il y a plein d'embûches pour arriver à agréger tout cet ensemble-là. Mais il me semble qu'au final, c'est constructif.
On se donne les moyens de ces ambitions-là, de construire, en résumé, une Silicon Valley française ici sur le plateau de Saclay.
Écoutez, il y a des moyens qui ont été vraiment dédiés à ça. Dire qu'ils sont suffisants, sûrement pas. Et pourtant, c'est l'avenir qui est en jeu.
On sent beaucoup de regrets quand même par rapport à l'engagement personnel que vous vous y mettez.
Oui, je pense que tout le monde y met beaucoup de... Si vous interrogez chacun des acteurs, vous verrez que tout le monde est très très impliqué sur ce projet. Simplement, il manque quelque chose pour l'agréger, voilà. Et pour l'instant, ça ne marche pas vraiment, quoi.
Allez, c'est parti pour la visite de cet immense plateau et de cet invraisemblable chantier.
Oups.
C'était France Inter, ça.
Oui, mais bon, je n'y roche pas.
Que tu rentres pas à Polytechnique?
Si, je vais rentrer à Polytechnique.
C'est par là.
Oui.
Donc ça, c'est une partie qui est encore en travaux. Il y a des bâtiments finis, d'autres qui sont encore en train de sortir de terre.
Non, je peux pas sortir.
Et on peut même pas sortir d'ailleurs en voiture.
De là.
Ce bâtiment, c'est un énorme chantier. Quand même.
C'est le pôle universitaire d'ingénierie d'Orsay. Je suis très content parce que c'est moi qui ai réussi à le faire sortir de terre. Donc la maison de l'ingénieur. Et alors là, je suis scandalisé qu'on ait construit ça devant, disant qu'il y avait un geste architectural quand même qui était magistral, et on construit ce truc devant, ce qui, à mon avis, tue absolument l'autre. Et sur votre droite, une villa gallo-romaine, voilà, qui montre que ce plateau est occupé depuis des millénaires.
Ce futur pôle d'excellence du campus de Paris-Saclay va évidemment bouleverser la vie de tous les jours des habitants de la vallée de Chevreuse et notamment les habitants d'Orsay. Orsay, c'est seulement 16 000 habitants et donc beaucoup de questions au sujet de ce futur pôle, d'où l'idée d'organiser ce soir, un soir d'hiver, d'organiser une conférence débat autour de l'avenir de la ville.
Bonjour à tous, merci d'avoir pris votre courage à deux mains pour traverser... la nuit qui s'annonce peut-être un peu sibérienne ce soir, et donc merci d'avoir bien voulu vous déplacer jusqu'ici.
Pierre Berthiaud, adjoint au maire d'Orsay, en charge de l'urbanisme.
Alors j'aurais tendance à dire, cette ville, on est, et la réunion d'aujourd'hui, je trouve que le lieu dans lequel nous nous trouvons est symbolique à cet égard, à savoir on vient parler de science dans un endroit parfaitement historique et représentant l'histoire de cette commune. Et je dirais que c'est un petit peu toute l'ambivalence dans laquelle nous nous trouvons en permanence, à savoir une commune profondément ancrée à l'intérieur de la région Île-de-France, reliée directement à Paris par la ligne de RER, et reliée, je dirais, quasiment presque au quartier latin. Pour autant, la ville a toujours voulu conserver, je dirais, un caractère, et c'est ce qu'attend un peu la population encore aujourd'hui au travers du PLU et de la rénovation du centre, un caractère un peu villageois, avec une volonté de préserver son patrimoine tant naturel et environnemental que son patrimoine architectural et historique, avec ses fermes subsistantes, avec son centre-ville et ses fonctions historiques qui donnaient à cette ville son identité forte d'ambition scientifique et en même temps d'appartenance au terrain, au terroir, à ce qui faisait la pierre de cette commune.
Déjà, je vois une première main qui se lève. Donc, alors, je vais vous demander de parler fort puisque on n'a toujours pas de micro.
Ça sent
le silage. Bien là, on se trouve devant la ferme de la Martinière, donc sur le secteur de Corbeville et le plateau de Saclay. Donc tous les champs que vous voyez devant vous ont été expropriés pour accueillir des logements, des commerces. Donc il y aura du béton ici aussi, quoi. Et au loin, donc vous voyez apparaître au loin le campus Paris-Saclay. Catherine Giobellina, je suis présidente de l'Union des Amis du Parc de la Haute-Vallée de Chevreuse et également vice-présidente de France Nature Environnement Île-de-France. On a devant nous un bulldozer qui avance à marche forcée et qui va faire disparaître toute cette nature, quoi.
Et l'activité agricole qui n'est pas des moindres, hein, sur le plateau.
L'activité agricole, elle existe depuis toujours puisque c'est un des plateaux les plus fertiles de France. tous ces champs avaient été drainés par Louis XIV pour faire alimenter tout un réseau hydraulique d'étangs et de rigoles, et qui alimentait à l'époque le château de Versailles, les fontaines du château de Versailles.
Versailles qui est une dizaine de kilomètres d'ici à peu près, un peu plus peut-être.
À peu près une quinzaine de kilomètres d'ici, ouais. Ouais.
Parce que là, tout autour de nous, donc là, ces champs ont vocation à devenir des lotissements, des commerces. En face, Paris-Saclay, donc là, le pôle plus technologique. On a traversé une autre partie absolument vide pour l'instant, où là, c'est un métro aérien qui devrait arriver.
Le métro aérien devrait effectivement traverser ce plateau et donc traverser ce qu'on appelle la zone de protection des espaces naturels, forestiers et agricoles. Imaginez que si vous mettez un métro sur un plateau comme ça, l'agriculture n'y résistera pas. Vouloir considérer les terres agricoles comme des espaces vides à remplir, c'est une attitude suicidaire pour l'être humain, quoi. Nous, on a toujours espéré que l'argent manquerait, en fait. Mais apparemment, tous les moyens de la nation ont été mis sur Paris-Saclay. Des milliards, des milliards. Et pour l'instant, sur le plateau de Saclay, l'argent et le béton continuent à couler à flot. C'est complètement fou d'imaginer qu'on met tant de milliards pour uniquement déplacer des établissements. C'est-à-dire que, encore, on pourrait se dire si ça crée des milliers d'emplois, des milliers de logements et tout ça. Non, là, en l'occurrence, il s'agit simplement de déplacer des établissements qui étaient situés ailleurs, dans Paris. Donc, on va libérer, en fait, des espaces fonciers dans Paris qui valent très cher. Et on va venir exproprier des agriculteurs pour un prix dérisoire. Et donc, c'est de l'argent, c'est de la spéculation immobilière. Il n'y a plus qu'à espérer que ça soit un succès, sinon ça serait véritablement un grand gaspillage d'argent public.
Alors, on s'est arrêté à Bagneux, qui est à une douzaine d'arrêts après la ville d'Orsay, qui fut notre premier arrêt. Pourquoi Bagneux ? Parce que Bagneux, c'est une ville qui est située sur le département des Hauts-de-Seine, c'est-à-dire le plus riche de France après Paris. Sauf qu'il y a sur ce territoire de très fortes disparités sociales, et Bagneux est l'une de ces poches de pauvreté ici dans les Hauts-de-Seine. À Bagneux, 17% de taux de chômage, c'est environ 6 points de plus que la moyenne nationale. Les 7 communes les plus pauvres du département, et Bagneux en fait partie, ces 7 communes représentent un quart de la population du département et la moitié de ses habitants vivant sous le seuil de pauvreté.
Je suis Jean-Pierre Martin, ancien secrétaire général pour le 92 du Secours Populaire.
On est dans un département que vous avez qualifié d'atypique. Effectivement, on est dans le département de la ville de Neuilly, mais on y trouve aussi des territoires beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficiles. Pour quelles raisons autant de disparités ?
Alors, pour quelles raisons ? Il y a des raisons historiques. Hein. Les Hauts-de-Seine ont un passé industriel qui a disparu. Mais les personnes qui travaillaient sont toujours là et elles ne travaillent plus. Donc ça, c'est déjà une source de pauvreté liée au chômage d'une certaine catégorie de personnes. Bon, il ne faut pas oublier aussi que les Hauts-de-Seine étaient un territoire à bidonville important, qui ont été résorbés, mais en construisant des HLM. Les personnes qui étaient dans ces bidonvilles n'ont pas forcément des moyens extraordinaires. Donc, elles sont dans des logements sociaux, mais restent avec des revenus qui sont très faibles. Dans les personnes qu'on accueille, nous, on a des personnes dont le reste à vivre, une fois qu'on a enlevé toutes les dépenses qui sont indispensables, le reste à vivre est nul, parfois négatif. Donc, on est sur une population qui a d'énormes difficultés et qui souvent n'est pas visible. Il y a un appauvrissement des retraités, il y a un appauvrissement de certaines catégories de travailleurs, soit des temps partiels, soit sont des intérims de 3 jours dans le mois, enfin, et qui font que on n'avait pas jusqu'à ces 5 dernières années cette catégorie de personnes qui venaient à nos permanences et qui est depuis 5 ans vient et qui est de plus en plus importante.
Nous avons de l'air, un fromage fondu, un beurre, une farine.
Elle va vous faire une deuxième paille pour une fois ou deux fois, mais ce sera un colis, puis 15 jours après le deuxième. D'accord,
d'accord. Ok. Voilà. Merci beaucoup, madame. Au revoir.
Lila, c'est la première fois que vous venez ici ?
C'est la première fois.
Vous avez un petit peu perdu à l'arrivée.
Oui, c'est la première fois, le temps de s'orienter. Bon, après, tout le monde est très aimable ici. J'ai ma feuille, je vais pouvoir avoir une aide d'urgence. Je viens ici pour une aide d'urgence, en fait. J'ai un petit accident de parcours qui a fait que, in fine, je me suis quand même orientée vers les assistantes sociales de Bagneux. Et là, elles me donnent un petit coup de main. Donc, je suis super émue parce que c'est un peu la première fois pour moi. Là, parcours accidenté, mais sinon, a priori, j'ai un master. J'ai fait l'école normale sup, rue d'Ulm. J'ai vraiment un parcours qui est fait pour être bien dessiné. Mais j'ai eu une rupture dernièrement. J'ai les deux petits en bas âge. Et j'ai changé de département. Et du coup, la CAF, en fait, met énormément de temps à traiter les dossiers du 94 au 92. Et du coup, je suis en congé parental, normalement. Et j'ai rien, j'ai aucune ressource qui tombe parce que les délais de traitement sont très longs. Et je me suis fait aider par des amis, par mon réseau, par ma famille pendant 4 mois. Et là, je craque parce que je leur ai déjà demandé déjà beaucoup d'aide. Et là, je me suis dit, bon, je vais arrêter de demander ici et là 500 et 1000 euros. Puis voilà, c'est ce qui m'amène ici aujourd'hui.
C'est de la rigidité administrative qui vous conduit ici.
Oui, j'ai un fils de 2 ans et demi et une petite de 11 mois, vous voyez. Mais oui, effectivement, là aujourd'hui, j'ai plus de ressources parce que c'est des délais. C'est pas que j'en aurai pas, j'en aurai prochainement, mais je peux rien faire. Je suis très secteur public, c'est tout mon parcours à l'école normale. Mais c'est vrai que je viens d'une famille populaire, en fait, et pour moi, vraiment, demander de l'aide, même s'ils existent, et heureusement qu'ils sont là. Mais c'est vrai que je ne pensais pas un jour revenir demander à manger, en fait, qu'on m'aide pour la nourriture. Heureusement qu'elles existent. Je fais des dons, en fait. Enfin, quand j'allais bien financièrement, du coup, je pouvais me permettre. Et puis, en tant qu'étudiante, j'aidais bénévolement. Mais là, c'est parce que je vois qu'il y a mes enfants, en fait. C'est parce qu'il y a mes enfants et que je n'ai pas trop le choix.
Avec ce parcours, vous avez encore confiance en l'État, dans le service public, dans les services publics ?
Dans ma vie professionnelle, j'ai fait un court passage par le privé. Et aujourd'hui, si je suis résolument persuadée que le service public a un sens, qu'il faut l'améliorer, par contre. Qu'il faut l'améliorer parce que là, pour le coup, la CAF, ça reste le service public. Et enfin, à un moment donné, je me suis demandé s'il n'y avait pas une carence et que je n'allais pas postuler de ce côté-là pour... devenir cadre là-bas, parce que je vois que c'est immense les délais. Enfin, c'est 4 mois d'attente. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, j'arrête pas de relancer celle du 94, celle du 92. Voilà, je suis dans ça en ce moment. Donc, je pense que le service public, on peut l'améliorer. C'est pour ça que je vais continuer quand même encore dans ce secteur.
Mais vous y croyez encore, voilà.
J'y crois encore, oui, j'y crois encore. J'y crois encore et il faut y croire. Enfin, sinon, du coup, mon parcours et ma vie par la suite n'aura pas de sens. En tout cas, dans le service public. Voilà.
Merci beaucoup, Lila.
Je vous en prie.
Il y a encombrement. C'est l'abondance.
Des gâteaux, on appelle ça le palais breton, qui sont délicieux.
Tu viens directement.
Et vous avez tout type de parcours de vie face à vous. Là, en quelques minutes, on voit des profils très, très différents.
Très différents et attachants en même temps. Les gens sont attachants. C'est vrai qu'il y a des jours, on a le temps de parler avec eux et d'autres pas. Vous avez vu ce matin, tout s'est mis d'un seul coup, ensemble. Donc, on n'a pas eu le temps de parler. Mais quelquefois, on peut discuter avec les gens et c'est très enrichissant. Et eux, ça leur fait du bien de parler.
Une boîte de sardines,
un café et son colis est prêt. Allez, on va donner ça à la dame.
Je vous remercie, madame.
C'est la première fois. J'étais étudiant, j'ai toujours travaillé et du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans rien. Le temps que tout se mette en place, Maintenant, il y a aussi les assistantes sociales qui font un très bon travail en nous redirigeant correctement et en ne nous laissant pas dans la difficulté.
Vous n'avez aucune aide, pas de RSA, rien?
Tout est en cours.
Vous êtes dans le trou noir de l'administration, ce moment où l'administration étudie les dossiers et n'a pas encore versé, c'est ça?
C'est exactement ça. Je suis dans cette position-là, j'ai travaillé en tant qu'alternante, je suis dans la poursuite de mes études. Je pensais trouver tout de suite un poste pour la suite de mes études. Malheureusement, j'ai pas trouvé. Et le temps de donner les papiers au Pôle emploi et que le Pôle emploi étudie derrière, je suis dans ce trou noir, comme vous dites. C'est pas évident parce que quand on a toujours travaillé depuis l'âge de mes 17 ans, donc j'ai passé mon BAFA, j'ai tout fait pour toujours travailler, ne pas manquer de revenus. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant que j'ai un loyer sur les bras, plus étudiante, et je veux continuer mes études, et c'est pas forcément évident aussi de trouver des postes d'apprentissage, au jour d'aujourd'hui, je me retrouve dans ce trou noir. Je ne pensais pas du tout que je m'y retrouverais. Parce que maintenant, ce qui m'angoisse le plus, c'est que je risque d'être obligée d'abandonner mes études et de trouver le premier poste à venir pour pouvoir me nourrir et vivre et pouvoir payer mes charges.
Voilà, madame. Alors, il n'y a plus de tablette au chocolat, on l'a remplacée par une crème.
D'accord.
Au revoir, mesdames. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
On continue d'emprunter cette ligne B du RER en direction du nord. On va traverser Paris sans s'y arrêter. Prochain arrêt, Aubervilliers. Du RER d'Aubervilliers, il y a des vendeurs à la sauvette qui font griller des brochettes de viande sur des chariots et en ayant installé un barbecue plus qu'artisanal. Nous sommes dans le centre-ville d'Aubervilliers, notre nouvel arrêt sur cette ligne de RER. C'est une banlieue très proche de Paris, banlieue qu'on a longtemps appelée banlieue rouge du fait de son histoire ouvrière, de son histoire populaire, histoire qui est d'ailleurs encore très ancrée aujourd'hui dans l'identité de la ville. Aubervilliers, cette ville de Seine-Saint-Denis, a résisté beaucoup plus longtemps que toutes ses voisines au phénomène de gentrification, c'est-à-dire tous ces Parisiens qui ne peuvent plus se loger dans la capitale à cause des loyers absolument délirants et qui viennent peu à peu s'installer ici, dans ces banlieues très proches. Et cela, même si Aubervilliers n'a aucun métro ni RER qui ne desserve son centre-ville, et bien malgré cela, le centre-ville d'Aubervilliers est en pleine métamorphose. Bonjour. Nous venons d'entrer dans un endroit qui s'appelle le Grand Bouillon. C'est un café culturel situé en plein cœur d'Aubervilliers. Et nous allons rencontrer Marie Audoux, qui est la femme à l'origine de ce projet.
Communiquant avec l'autre commerce, la librairie. Alors, ce lieu a pour vocation de répondre à un manque de lieux de sociabilité pour les femmes dans cette ville populaire où on trouve énormément de cafés, mais où les femmes ont tendance à être un petit peu écartées de l'espace public, des endroits de rencontre. Ça s'est plutôt passé de façon fluide, assez simple. Comme le fonctionnement est assez participatif, il y a une adhésion assez simple qui s'est faite de la part du public pour ce lieu.
Est-ce qu'aujourd'hui il y a deux Aubervilliers, l'Aubervilliers on va dire historique, avec cette histoire populaire, cette histoire ouvrière, et puis un bobo, un lapsus, un Aubervilliers plus bobo?
On est peut-être à la croisée des chemins. En effet, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui se dénomment eux-mêmes les anciens d'Aubert, dont certains sont assez sceptiques, parce que là, la ville change très, 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 très vite. On ne peut pas savoir où ça va nous emmener, hein, toute cette rénovation urbaine, des nouveaux programmes immobiliers. On sent que là, il y a des inquiétudes de la part de nombreux habitants. Les craintes, elles portent sur une hausse supposée des loyers qui obligerait une partie de la population à partir un petit peu plus loin en banlieue. L'inquiétude vient aussi de l'arrivée d'un nouveau métro en plein cœur de ville. Et puis oui, il peut y avoir aussi des craintes liées à l'arrivée de ce qu'on appelle les bobos, qui devraient forcément réformer la ville. Et en même temps, de nouveaux arrivent avec plein d'énergie, plein d'envie. L'intérêt de cette ville, c'est qu'elle fonctionne un peu comme un village. L'idée, non, c'est plutôt de rendre la ville encore plus cohérente. Il faut la moderniser, il faut s'ouvrir, il faut... Là, l'avenir, c'est le Grand Paris, donc Aubervilliers, si on veut que ça aille de l'avant, on a quand même 40% de la population qui est pauvre. Donc, l'arrivée de gens qui payent des impôts, elle est quand même favorable. Justement pour continuer à aider des gens qui ont de réels besoins sociaux d'accompagnement et de soutien. Donc voilà.
Johanna, vous êtes à Aubervilliers depuis un an et demi. Pourquoi vous êtes venue ici?
Proche Paris, premier achat.
Achat que vous n'auriez pas pu faire à Paris?
Non, clairement non. Être à Paris, mais sans être à Paris, pour l'instant. Et puis le métro doit venir, quand même.
Pourquoi pour l'instant? Ça va changer?
Avec le métro, oui, je pense, clairement.
Puis c'est une ville qui bouge très très vite, parce qu'il y a encore quelques années, c'était absolument vraiment populaire, ouvrier. Là, ça se boboise quand
oui,
même.
Oui, hein. Un peu, ouais, un peu. On le remarque clairement dans le Grand Bouillon, déjà. Bah, qu'il y a beaucoup de bobos, de jeunes bobos, de jeunes parents, comme moi, qui ramènent leurs enfants... Où on peut boire un verre et en restant avec des activités comme de la marionnette ce soir, je crois.
Vous assumez pas ça, vous? Votre non. Statut, on va dire.
Non, parce que chez moi, ça se passe pas comme ça. À La Réunion, on n'a pas besoin de tout ça pour se sentir être dehors. Puis ça nous permet aussi de rencontrer d'autres parents, d'autres enfants. Puis essayer d'agrémenter un peu le truc. Parce qu'être avec des enfants tous les jours... C'est pas forcément évident. Moi, j'en ai trois. Trois garçons, dont deux jumeaux.
Ils ont l'air très, très calmes, en plus.
Ben, on sort d'un spectacle, là, déjà. Donc, je crois que je dois aimer ça, en fait. Je dois être un peu sadomaso, parce que je me retrouve encore dans un spectacle. Mais ça va bien se passer. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Voilà. T'as quelque chose à dire, Tommy?
Non.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un iceberg? C'est incroyable! Allons voir.
Il va tourner Thomas, il fait carré live.
Moi je m'appelle Monsieur Ramani Boubaker. On s'est installé là et on a ouvert un petit restaurant burger maison. Voilà.
Vous préférez cet Aubervilliers-là ou l'Aubervilliers que vous avez laissé des années en arrière?
En fait, l'Aubervilliers d'avant, c'était celui-là de mon père. Moi, j'étais jeune, mon père était propriétaire d'un bar-hôtel sur Aubervilliers. Donc moi, j'étais fils de cafetier, j'ai tenu le bar avec lui, j'étais adolescent. cet Aubervilliers et celui-là d'aujourd'hui, il est totalement différent. C'était une autre mentalité, une autre catégorie de personnes, une autre façon de vivre qui est vraiment incomparable avec celle d'aujourd'hui. Mais je préfère celui-là parce que je vis avec Aubervilliers, je participe à son évolution. Je suis représentant des commerçants du centre-ville, donc je vois la progression, l'évolution, et j'y participe.
Le nom d'Aubervilliers ne fait plus peur, en fait, parce que c'était le cas encore il y a quelques années.
Oui, bien sûr, parce que en fait, Aubervilliers faisait peur. Voilà, c'était une banlieue du 93. Voilà, il y avait avec ses violences, son quotidien, et aussi la misère, la population. Même la chanson hein, dans le temps qui disait le rat d'Aubervilliers, c'est un poème de Jacques Prévert qui expliquait bien la misère, les usines, les gens qui arrivent de partout. En fait, ça c'est une richesse qu'aujourd'hui Aubervilliers, cette mixité, ce passé va faire qu'aujourd'hui Aubervilliers va devenir une ville tertiaire de bureaux, d'hôtels pour accueillir tous ces gens-là et donner une nouvelle image comme elle le désire.
Mais vous parlez tellement bien de votre ville qu'on va aller le prendre ce thé, alors, mais à l'intérieur, parce qu'il fait quand même très frais.
C'est pas la meilleure époque pour voir les jardins, mais enfin bon, c'est bon, c'est déjà ça. Alors il y a 3 hectares à peu près de jardins.
Marcel Millet, vous êtes le président de la société des jardins ouvriers des vertus ici à Aubervilliers. En quelques mots, c'est quoi l'histoire de ces jardins?
Le terrain il s'est amélioré tout doucement parce que les jardiniers ont porté des amendements au sol. Qui fait que ce que vous voyez aujourd'hui, bien c'est le travail de 80 ans d'occupation par les jardiniers.
80 ans d'existence menacée aujourd'hui avec ce projet de Grand Paris et donc d'une ligne de métro qui devrait empiéter sur ce territoire?
Menacée, mais on ne sait pas dans quelle proportion. Et on espère bien obtenir des responsables de l'aménagement la restitution des terrains perdus, 1 mètre carré pour 1 mètre carré. Mais pour l'instant, on n'a aucun élément qui nous permette d'informer, ne serait-ce que nos adhérents.
C'est un morceau d'histoire de la ville ici, clairement.
C'est un morceau d'histoire de la ville. Et c'est aussi un lieu où les contacts sociaux sont très importants. 80% à peu près des terrains sont occupés par des gens d'Aubervilliers, toutes nationalités confondues. Environ 30% d'origine portugaise. Il y a des Maghrébins, depuis l'année dernière, il y a un couple de Cambodgiens, un couple de Chinois. Vous voyez, on est tout à fait à l'image de notre population, en fait.
Ce sont des gens qui prennent plaisir à jardiner ou des gens qui, économiquement, ont besoin de ces jardins pour vivre, pour se nourrir?
Au début, il y a quelques années, c'était à sens. Essentiellement des gens qui venaient pour le plaisir. Et puis maintenant, on est confronté quand même à une demande de jardin, de subsistance. Alors c'est un phénomène qui date d'une dizaine d'années à peu près. Et les gens, dans leur lettre de motivation, quand ils demandent une parcelle, ils font ressortir ça. Et évidemment, on est tout à fait à l'écoute de ça, parce que c'est vrai qu'on traverse des périodes quand même très difficiles. J'espère qu'on va garder ce site.
C'est pas la période de l'année la plus propice pour le jardinage à proprement parler.
Il y a des légumes, par exemple, il y a des poireaux, il y a des choux, il y a des. On récolte encore certains légumes d'hiver. C'est une période où on fait des travaux, c'est-à-dire on retourne la terre, on amende le sol. Il y a du boulot toute l'année dans un jardin.
On s'approche de la petite cabane en bois, ouais. Qui est donc attenante à cette parcelle.
Salut José. Où c'est que t'es? Là José. Il doit être derrière. Salut José.
Salut Marcel.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
fait un petit sujet, notamment avec les risques de la ligne de métro qui pourrait peut-être passer sur le secteur.
Ah ben ça, on a des chances d'avoir le droit. Hein. Ça nous embête un peu parce que c'est toute notre vie. Hein.
Les jardins, c'est toute votre vie.
Ah bah oui, c'est toute notre vie. Hein. Bah, moi, ça fait bientôt 30 ans que je suis là. Et puis depuis que je suis à la retraite, c'est à 80% de mon temps.
C'est pas pour vous flatter, mais c'est une des plus belles parcelles en arrivant.
On fait ce qu'on peut, hein. Tous les jours, bon, je viens le matin de 2h, l'après-midi 2h, et puis bon, bon, au lieu de rester en train de regarder la télé, à la fin on commence à avoir mal à la tête, comme ça ici on n'a pas mal à la tête.
Cette ligne de métro, ça vous inquiète?
Bah ça nous inquiète, oui, oui et non, mais si on savait exactement ce qu'ils font. Parce que normalement ils devraient passer là-bas, d'après ce qu'on sait, parce qu'on ne sait pas grand-chose. Mais si, une fois qu'ils couvrent la ligne, c'est remettre la terre, qu'on puisse faire quelque chose... Ça nous arrangerait, parce qu'il nous resterait encore un peu de terre. Alors s'il continue, bientôt il n'y a plus rien. Personnellement, c'est toute ma vie, hein, comme la plupart des gens ici, hein, parce qu'on sort de chez soi, dès qu'on arrive là, on n'est plus à Paris. On est à la campagne.
C'est quand même des secteurs qui bougent très vite, qui évoluent très vite. Aubervilliers, tout ce coin-là de la banlieue proche de Paris, ça évolue très très vite. Non,
depuis quelques années, parce qu'après le Stade de France... C'est le Stade de France qui a fait tout bouger dans le coin. Parce que c'est pareil, le Stade de France était comme ici avant. Hein. C'est une région qui a pas mal de population, c'est pour ça qu'ils ont besoin de l'espace. Donc le petit moindre carré, mètre carré, bah, ils le prennent. Alors maintenant, bon, c'est plus ce qu'il était il y a 2 ou 3 mois, parce que regardez tout ça là. C'est pas des fruits, mais ce sont des légumes, je vais vous les montrer.
Ah, je veux bien ce que je
vois. Ça donne des légumes, c'est entre le navet et la patate.
D'accord.
On peut mettre en pot-au-feu, dans les jardinières, dans la soupe, et on peut même les faire sauter.
D'accord.
Comme les patates.
Nous quittons Aubervilliers pour continuer notre trajet vers le nord de la région parisienne et nous allons finir ce reportage à Aulnay-sous-Bois, à une 50aine de kilomètres de notre point de départ pour ce sujet, c'est-à-dire la ville d'Orsay. Et nous allons voir bien évidemment que ce sont deux univers complètement différents. À Aulnay-sous-Bois, un ménage sur deux seulement est imposable. Il y a plus de 20% de chômage et le chiffre est d'ailleurs encore plus élevé pour les plus jeunes. Et dans cette ville du 93, contrairement à son opposé sur la ligne du RER, c'est-à-dire contrairement à Orsay, eh bien ici il n'est pas question de pôle d'excellence, d'avenir, d'usine du futur. Non, à Aulnay-sous-Bois, on ne parle qu'au présent. Le terminus de ce RER est l'aéroport Charles de Gaulle, donc c'est toujours une image assez intéressante de voir ces voyageurs avec d'immenses bagages sur cette ligne qui dessert des villes très défavorisées d'Île-de-France.
936, Laston, je vais te faire montrer.
Moi je m'appelle Amara. Je suis le responsable sportif de la régie de quartier, anciennement à Sadaka. Moi, je m'occupe de la gestion des locaux, c'est-à-dire du bar et des salles de sport. Et allez-y, pour la visite. Elle se décline en deux parties. On a cette partie-là, qui est tout ce qui est musculation.
Les machines.
Alors, les machines, etc., un peu de cardio. Et on en passe une grande salle encore, une deuxième salle. C'est pour tout ce qui est exercice abdominaux ou crossfit, etc. Et tout ce qui, c'est tout ce qui pourrait exercer abdominaux avec tapis, crossfit.
On fait pas semblant, hein.
On fait pas semblant, ça transpire.
Qu'est-ce qu'ils vous disent ces jeunes qui cherchent du boulot, qui arrivent pas, qui sont dans des situations super compliquées? Qu'est-ce qu'ils échangent avec vous?
Souvent, ils baissent les bras. Voilà. Souvent, ils baissent les bras, ils lâchent un peu l'affaire. On leur dit non, faut pas, il faut continuer, il faut s'accrocher, il faut chercher. Et voilà, souvent ils sont confrontés à beaucoup de barrières, dont l'une, ce qu'on entend plus souvent, c'est le casier. Voilà. C'est que voilà, j'ai un casier, je ne peux pas travailler là, j'ai une formation, je ne peux pas aboutir à l'emploi parce que j'ai un casier. Et voilà, ce que tu entends, c'est comment ça se fait que, par exemple, les dirigeants de ce pays peuvent diriger le pays avec un casier, et un ouvrier comme nous, on ne peut pas travailler avec un casier. Voilà. Pourtant, souvent c'est des erreurs de jeunesse, ce n'est pas des grandes choses. et ça met un frein à l'emploi. Comme je le répète souvent, si on veut vraiment travailler, il y a de l'emploi, c'est pas ce qui manque. Moi, je prends le principe qu'il n'y a pas de sous-métier. Voilà, certains ne veulent pas accepter. Et le problème en parallèle, c'est qu'ils n'ont pas fait d'études ou pas les noms à l'école, donc ça coince.
2017, année électorale, année présidentielle. Est-ce que c'est des sujets qui intéressent, des échéances qui intéressent ces jeunes?
La politique intéresse de plus en plus en banlieue. Voilà. Après, bon, moi, je me base sur mon avis à moi. C'est que souvent, je dis souvent, bon, que la politique, c'est bien beau et tout, mais souvent, à notre niveau, on ressent peu de changements, malheureusement. C'est un constat que moi, personnel, j'ai à Mara, pas des autres habitants. Mais on échange souvent entre nous, voilà, que ce soit en fonction des élections américaines, comme Trump est passé, ou que des dernières primaires à droite. Voilà, on échange beaucoup. On échange beaucoup, mais plus avec parce qu'ici, on a beaucoup de papas le matin, etc. C'est plus avec eux qu'on parle de politique. Les jeunes, un petit peu, mais un petit peu moins.
Est-ce que la politique suscite encore des attentes et des espoirs?
Oui, au fond de nous, il y a toujours une part d'attente et d'espoir, mais il y a plus de déceptions depuis, on va dire, une dizaine d'années qu'autre chose, malheureusement. Oui, il y a toujours une lueur d'espoir, mais peu d'espoir, malheureusement. On aimerait bien en avoir beaucoup plus.
Non, je ne ressemble pas, je ne sais pas.
C'est avec la petite barbe et même la petite barbe. Si.
Non, je suis plus beau.
Oui, je sais que tu es plus beau. Hé, je sais que tu es plus beau. C'est sympa
pour lui.
Ça va les chemins, non?
Je dis que c'est lui, il n'est pas une
Il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose, effectivement.
Je peux vous demander de vous présenter?
Oui, hein, moi je suis Stéphanie Blé, je suis pas du tout du quartier, je suis arrivée ici pour faire un stage et on m'a gardée. Au début on arrive, on est identifié, mais une fois qu'on est identifié, ça se passe très très bien. Moi j'ai pas peur quand je me balade dans la cité alors que je connais personne. Moi je suis super bien accueillie, ça fait un an que je suis là et ça se passe très très bien. Et pourtant je suis pas du tout de cité, moi je viens de la petite bourgade en Normandie, donc je suis pas du tout dans cet esprit cité, j'ai pas été élevée en cité et ça se passe très très bien.
Tout à l'heure on parlait avec Fatma, 57 ans, qui nous disait aussi qu'elle n'avait travaillé que dans le milieu associatif. Aucun employeur public, aucun employeur privé, ça veut dire des choses de la situation économique et sociale du quartier.
Après il y a aussi une peur. Moi j'ai travaillé longtemps avec la conseillère en insertion, on a partagé le même bureau, donc j'ai été on m'a confié quelques confidences. Et effectivement la problématique qui revenait c'est oui mais ils vont pas me prendre parce que c'est une grande entreprise, parce que je sais pas, parce que je viens du quartier. Je pense que les jeunes et peut-être les moins jeunes se mettent des barrières eux-mêmes, ils tentent pas. Parce que, oui, mais je viens de citer. Donc, non, c'est pas grave. Tu as autant de capacités, t'as des qualités. Et c'est ça qui est dommage. Ils se renferment dans cette image, ils se renferment dans ce qu'on leur dit. Oui, mais vous venez d'un quartier sensible, nanana. Et finalement, ils se conditionnent et ils osent pas.
Mais ça veut dire que les barrières peuvent être parfois des deux côtés et pas seulement d'un seul côté, comme on peut facilement l'envisager.
Oui, après, c'est vrai qu'il y a... moi, je viens du secteur privé. J'ai toujours travaillé dans le secteur privé. J'ai fait des recrutements. Bien évidemment, il y a des critères. Voilà, il faut un candidat qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est très difficile de faire du social entre guillemets. L'avantage de la régie, c'est qu'on va être une passerelle. Bah, c'est bête, mais on va apprendre à certains jeunes du chantier à se lever, arriver à l'heure. Moi, je donne des rendez-vous. Si au bout de 10 minutes, j'ai personne, je les prends pas. Donc une fois, deux fois, et puis la troisième fois, ils comprennent et ils savent qu'ils viennent à mon rendez-vous à l'heure ou presque à l'heure. Globalement, on est là pour la passerelle et on les forme, on les prépare. C'est ça aussi. Et après, on les prépare au monde réel, entre guillemets, du travail. Et ça, c'est vraiment le boulot qu'on fait au quotidien, aussi bien sur le code du travail, mais sur le code, les codes en général, le savoir-être, le savoir-vivre ensemble. Ça, c'est des choses qu'on va apprendre ou réapprendre au quotidien.
C'est ça, du parasitage sur les côtes là.
Maintenant,
lui, on va le
payer. Il va blinder ma boîte mail. Je m'appelle Mathieu, j'ai 25 ans et je travaille ici à la régie de Sadaka depuis 3 mois et demi par là, à peu près.
Qu'est-ce que vous faites comme boulot alors?
Agent polyvalent, donc c'est-à-dire je fais préparation de chantier, de la peinture, je fais des déménagements. Je fais à peu près, je suis sur tous les chantiers, je fais les marchés le mercredi et le dimanche à Carrefour. Voilà.
Vous vous sentez un petit peu plus stabilisé que par rapport au passé?
Oui, parce que là, c'est des contrats, en fait. Donc, ça veut dire que ça dure, c'est des contrats de 3 ans, période de stage d'un mois. Et donc, après, voilà, ça s'est bien passé. Donc, maintenant, j'ai signé un contrat, je suis content. Et puis, ça évite les intérêts, mais on ne sait pas sur quel pied danser. Donc, ça veut dire, une fois, c'est 2 semaines. Des fois, on ne fait rien. Ils nous rappellent après. Donc, voilà.
Puis, l'intérim, ça sonne. Il faut y aller tout de suite. Voilà. Sinon, après, la prochaine mission, on peut lui dire au revoir.
Exactement, c'est ça. Donc, moi, j'aime bien être stable. J'aime pas qu'on m'appelle à l'imprévu, c'est pas bon. J'aime pas. C'est vrai que c'est assez difficile de faire, déjà à la base, d'être embauché dans un CDI ou bien voilà. Donc, signer un contrat de 3 ans, je peux que être heureux. Hein.
Vous estimez chanceux ?
On peut dire ça comme ça. Après, si vous êtes motivé dans le travail, vous faites vos preuves. Toute personne qui habite dans ce quartier-là peut y accéder. Mais faut juste être motivé. Donc, comme je suis motivé et puis je travaille, je suis sérieux. Donc, d'un côté, je suis chanceux, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que.
Vous le méritez.
Je le mérite, voilà, exactement, merci.
En 2017, il y a une élection présidentielle. C'est un enjeu qui vous paraît important d'élire un président où vous vous dites, quel qu'il soit, ma vie sera toujours la même.
Bah écoutez, moi. Ça m'intéresse pas trop, moi, de voter, je vais pas vous mentir. Je suis pas trop dans... jamais voté de ma vie, en fait. Ça m'a jamais intéressé. Ils sont rien pour moi, on est rien pour eux. Donc, à partir de ce moment-là, ils m'apporteraient à la vie. Ils verraient à leur apporter si j'ai un vote de moi ou pas. Pour moi, personnellement, ça sert à rien. Un vote de moi ou pas, ça va rien changer, en fait. C'est ça que je veux vous dire. On habite dans un quartier, ils pensent tous qu'on est des racailles. Donc, personnellement, je leur donnerai pas un vote. Monsieur, j'ai toujours compté sur moi-même, donc c'est pas aujourd'hui que je vais compter sur eux. Hein.
C'était Ligne B du RER, ligne de fracture sociale, un reportage de Vanessa Descoureaux dans la série Train de campagne. Mixage Jean-Richard Dufour, réalisation Anne Leroux, assistée de Stéphane Combe et Zora Bensmaïli. À la semaine prochaine.